Il nous faut le micro, ça marchera mieux. On a veillé à respecter le temps du premier générique. C'est toujours émouvant, le début et les retrouvailles. Donc, première rencontre de cette cinquième édition des Fractions. Et on est très heureux d'accueillir pour ouvrir... ce qui ne seront pas des hostilités, justement, pour ouvrir les festivités. Valérie Zenati, qui vient de faire paraître en janvier Qui vive aux éditions de l'Olivier, dont on va parler. Mais dans ce grand entretien, même si on pourrait parler des heures, je pense, de Qui vive, on le relira avec l'ensemble de votre œuvre, Valérie, puisqu'il y a, quelques livres jeunesse et quelques traductions. Donc déjà, bienvenue Valérie.
Merci, merci Bénaël, merci à vous tous d'être là. C'est la première fois que je fais une rencontre où je vois le public en nombre chinoise. Et vous êtes très beau.
Donc cette rencontre, on a à peu près une heure et je veillerai à faire circuler le micro à la fin hein, pour que vous puissiez aussi... questionner Valérie sur tout ce qui peut vous avoir touché dans ce livre, parce que si l'on reliait par thématique, les thématiques sont innombrables. Il y en a une sur laquelle on vous voit intervenir régulièrement, hein, au dehors de l'actualité de ce livre-là, c'est celle de l'actualité d'Israël, pays que vous connaissez très bien depuis longtemps, qui est aussi au cœur de ce livre, mais du point de vue de Mathilde, qui, elle, est une candide par rapport à Israël, enfin, qui est reliée à cette histoire, mais qui a une méconnaissance totale de ce pays. Et qui, pour des raisons personnelles et métaphysiques, parce qu'au départ, j'avais résumé ça en midlife crisis, comme on le dit, mais ce n'est pas que ça, pas du tout. Il y a quelque chose de plus général qui la touche, de plus politique et de plus historique. Elle est elle-même prof d'histoire. Et sans tout raconter, sans faire tout le pitch du livre, ce que le livre va raconter, c'est un voyage dans ce pays qu'on connaît bien comme un pays du sacré avec tout ce qu'il engendre de conflits immémoriaux. Et ce voyage n'est pour autant pas mystique, a priori. Mais évidemment, la question de la foi va se poser, entre autres questions. C'est véritablement un road trip d'un point de vue naïf. Hein, je reprends vos propos dans d'autres interviews, c'est-à-dire que ça en fait quelque chose d'intéressant du point de vue de ce que ça nous dit du pays. Parce qu'il y a une sorte de disjonction entre son point de vue et votre connaissance. Donc vous avez un gros matériau d'écriture et il faut faire écrire une candide. Et donc ce livre est passionnant, on va en parler. Mais pour entrer, si vous voulez bien, dans alors ce qui est la thématique des fractions, l'écriture et le réel, il vous concerne à plein de chefs. Il n'est évidemment pas question des événements récents d'Israël, mais d'une sorte de permanence qui a généré également les événements récents qu'on connaît, de cette crise identitaire multiple, permanente dans ce pays-là. Mais du point de vue de ce rapport de la littérature et du réel, et du point de vue de la forme même du livre, il y a quelque chose de frappant dans celui-là, qui vive donc, mais qui était par ailleurs déjà remarquable dans votre précédent livre sorti en janvier 2019, dans Le faisceau des vivants, qui était un essai, mais un récit essai à la première personne consacré à Aaron Appelfeld, grand écrivain israélien dont vous êtes la traductrice depuis 2004, et donc à Aaron Appelfeld, à sa littérature, à votre relation et à sa relation au monde. Il y avait à la fin du livre une petite annexe avec des liens YouTube d'une interview d'Appelfeld sur laquelle vous vous concentriez. Dans ce livre-là, c'est un moment de concert de Leonard Cohen qui est en lien YouTube à la fin avec l'adresse en hébreu, l'adresse en français parce qu'on y va plus vite en hébreu. Bref, il y a un document avec lequel vous travaillez, un document qui travaille le personnage mais avec lequel vous travaillez le livre. Et ça, c'est un document, ce sera la partie 1 de ma première question. Hein, ce document, Leonard Cohen, quel est-il et en quoi travailler avec cette matière documentaire-là est essentiel à ce livre-là. Et puis dans une partie 2, on pourra évoquer un autre document qui est lui un document de fiction mais qui est au cœur du livre, comme un texte qu'on retrouve et comme qui est fictif mais qui est un document fictif, qui est une lettre dont on parlera ensuite puisqu'elle elle nous amène sur d'autres terrains encore. Commençons donc pas seulement Leonard Cohen, parce qu'on vous a posé la question très frontalement comme ça, et c'est déjà immense. On pourrait, je pourrais vous dire Leonard Cohen et on pourrait en parler longtemps. Mais ce document, c'est-à-dire ce moment que vous décrivez, qui est re-raconté dans différentes perceptions par un autre personnage, à un moment, c'est-à-dire la présence de Cohen sur scène en 72 en Israël. Vous-même, quand et comment l'avez-vous rencontré, peut-être ? Et quand et comment l'avez-vous rencontré puis traité comme matériau d'écriture de romanesque ?
Alors merci beaucoup Guénaël d'entrer dans le livre par cette idée de document et je suis vraiment très très heureuse de cette invitation de la BPI. J'aime beaucoup ce festival et depuis quelques jours j'ai hâte d'être à ce moment-là pour réfléchir avec toi, avec vous sur cette question de l'effraction du réel en littérature, enfin dans l'écriture, parce que je crois que c'est une question qui m'habite depuis très très longtemps et qui est très secouée ces derniers temps. Donc c'est bien de pouvoir y réfléchir à plusieurs. Et alors j'aime bien la façon dont tu poses la... Pardon,
On va devoir continuer, hein, c'est très mentir.
Bon, voilà, on sait. J'aime la façon dont tu poses la question concernant le document, parce que cette vidéo où l'on voit Leonard Cohen interrompre un concert à Jérusalem en 1972, mon personnage Mathilde peut dater le moment où elle l'a découverte, contrairement à moi. Je n'ai pas découvert cette vidéo dans les mêmes circonstances. Mais ce que je peux dire pour répondre à cette question, c'est que ce livre est né, a commencé à naître en moi à la fin 2020, début 2021. Et il a connu vraiment des soubresauts et une vie. Je pense qu'un livre a au moins trois vies. La première, c'est une vie prénatale qui est vraiment celle de la quête. De trouver la matière du livre, sa direction, sa tonalité. La deuxième, c'est la vie qui est le temps de l'écriture même et qui est un moment extraordinaire de liberté. Et la troisième, c'est celle qui existe maintenant avec la parution. Et dans cette première vie du livre, qui a été d'emblée placée sous le signe d'une interrogation que se pose Mathilde, de la manière dont on n'arrive pas à faire face au réel, justement, au réel des événements qui entrent dans nos vies par effraction, pour reprendre le titre de ce festival, c'est-à-dire qui surgissent souvent sur un téléphone portable, dans les actualités, tous ces événements collectifs, parfois planétaires, qui entrent dans nos vies, qui entrent dans nos consciences. Comment faire face à ces questions-là ? Ça, c'était dans la première vie du livre, cette interrogation était très présente. Et donc, j'ai commencé à tâtonner et à chercher et à écrire un document qui n'est pas présent dans le livre, finalement. Mais je voudrais répondre en commençant par ce document. Dans mes recherches, dans ce chemin où j'ai tâtonné pour trouver le livre, j'ai décidé de traduire le premier chapitre de la Genèse de la Bible, enfin, ou de le retraduire, parce qu'il a été traduit des dizaines et des centaines de fois. Et donc j'ai pris le premier chapitre de la Genèse, qui est connu, très connu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et j'ai entrepris de le traduire. J'ai senti la nécessité de retourner à quelque chose de premier, un texte écrit il y a très longtemps, dans une langue que je connais un peu, l'hébreu, vers la langue qui est la mienne, le français. Cette traduction n'est pas présente dans le livre, mais elle m'a ouvert quelque chose de mon personnage, de sa quête. Et dans cette quête, il y a eu deux choses qui sont apparues. La vidéo de Leonard Cohen que je connaissais, et qui est, d'une certaine manière, dans cette vidéo où il explique qu'il, face à un public à Jérusalem qui n'est pas en état de chanter, parce qu'il n'arrive pas à décoller, il n'arrive pas en quelque sorte à être dans l'inspiration nécessaire à la chanson. Dans cette vidéo, il cite la Kabbale, qui est une mystique juive, et il relie en quelque sorte ce moment à une idée de la perfection de la perfection du monde qui serait celle de la capacité qu'auraient Adam et Ève, donc le premier homme, la première femme, à se regarder droit dans les yeux. Et il dit, tant qu'Adam et Ève ne peuvent pas se regarder droit dans les yeux, Dieu n'est pas assis sur son trône. Donc dans cette vidéo, il retourne à quelque chose de premier qui est présent dans, on va dire, dans le premier chapitre de la Genèse. Et la deuxième chose à l'opposé, c'est que cette traduction du premier chapitre m'a amené aussi à quelque chose de premier et à un monde qui était celui de la nature en l'absence des hommes, puisque selon le récit, l'homme et la femme ont été créés au sixième jour. Et c'est ce qui m'a guidée vers le deuxième texte dont tu parles, le deuxième document, réellement fictif cette fois, laissé par le grand-père de Mathilde après sa mort, et où on commence par l'évocation d'un arbre, d'une forêt, qui va se transformer ensuite, comme le monde s'est transformé depuis la création jusqu'aux hommes. Enfin, quand je dis comme le monde, enfin, évidemment, je ne le prends pas à la lettre, mais comme le récit biblique nous le raconte. Voilà, donc la source, en quelque sorte, de ces deux documents présents, et dans un troisième qui n'est pas présent, mais qui a été très important pour moi.
Je ne peux pas ne pas me dévier et rebondir à cet endroit-là, parce que dans le deuxième texte, un peu de l'ordre du conte ou du légendaire, où il est question d'un violon, il y a un bout aussi du texte de la Genèse. Enfin,
alors, des évangiles.
Oui, des évangiles. Au commencement était le verbe.
Au commencement était le verbe, tout à fait, bravo.
Et ce qui est dit, c'est au commencement était le verbe. Et, bon, sacrilège, je vais un peu vite, mais non, dit le Père, au commencement était la musique.
Oui.
Et il y a là une citation que je pourrais aller chercher dans mes notes, mais qui est magnifique, mais peut-être que je peux te demander de la lire, parce qu'on avait dit que ce passage-là,
oui,
ce passage-là de ce texte-là, est-ce que tu auras envie de le lire ?
Oui, 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 oui.
Je ne veux pas imposer comme un vieil instit qui. Mais comme ça vient à plusieurs endroits de ce dont tu es en train de parler.
Donc le passage où.
Où il parle de la musique en partant
le père,
de l'évangile,
hein. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Alors. Et donc, ce passage qui est donc. Dans des feuillets retrouvés après la mort du grand-père de Mathilde, passe de la forêt à l'arbre qui devient violon, le violon, voilà, transformé en violon par un luthier et est transmis par ce luthier à son fils. Donc c'est toute une histoire de transmission. Et là, c'est le fils qui raconte, et il travaille dans une imprimerie et il raconte comment il a appris à écrire en recopiant. Au commencement était le Verbe était chez Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement de Dieu. Tout a existé par lui et rien de ce qui existe n'a existé sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas trouvée. C'est faux, disait mon père, au commencement était la musique. La terre chantait, tonnait, martelait, mais les hommes veulent croire qu'ils sont au commencement de tout avec leur Dieu. Or, il y avait la nature, c'est d'elle que nous sommes nés. Et ma mère se signait à ces mots, elle chuchotait, « Tais-toi, le malheur vient à celui qui ne croit pas. » Et quand elle prononçait cette phrase, j'entendais qu'elle parlait de moi, du malheur de mon bras inutile. Mon père haussait les épaules et retournait dans son atelier. Il y a passé sa vie. Et la lampe à huile qui l'éclairait l'a plus souvent côtoyée que moi. Elle s'est brisée lorsque je suis venue vivre à Bruxelles. Et le violon a pris quelques coups aussi dans le voyage, malgré mes précautions. Des encoches se sont inscrites sur ses filets. C'était son instrument, le premier qu'il a fabriqué seul, celui qu'il a gardé toute sa vie et dont il a joué chaque jour. Et dans ces dernières semaines, il pleurait en silence de ne plus pouvoir le tenir. Il aurait voulu mourir en jouant, alors il avait demandé qu'on le couche près de lui. C'est lui, son fils véritable, j'ai pensé, parfaitement proportionné, parfaitement dessiné, lui qui ne l'a jamais déçu. J'ai aimé autrefois entendre mon père jouer, mais je le haïssais aussi. Dans ces moments-là, il fermait les yeux ou avait un regard qui ne me voyait pas. Il cherchait à oublier mon bras insensible et inerte. J'ai appris à me battre d'un seul poing et à courir vite, Je m'exerçais à porter des charges avec les dons. À 8 ans, j'ai soulevé un seau d'eau. « Laisse, m'a dit ma mère, tu n'es pas une bête. » Pourtant, c'est ainsi que l'on me regardait.
Alors, ce texte, hein, je recontextualise, hein, c'est un texte dans le texte.
Oui.
Donc, il y a cette texte qui est de l'ordre du légendaire, qui a une dizaine de pages, il est en italique. Donc, c'est pour ça que ça, la citation de la Bible, elle, n'est pas en italique, pour faire
tout
de l'italique
fait.
Dans l'italique.
Oui.
Donc, on est dans une sorte de mise en abîme à cet endroit-là.
Oui.
Et il y a plusieurs choses. Je me dois te poser la question de la musique.
Oui.
En soi, en elle-même, puisque tu la pratiques aussi. Et ça n'est pas sans rapport avec la confusion du monde. La musique est une autre pratique artistique qui résonne différemment avec ta pratique de l'écriture, qui est très complémentaire, je pense. Donc ça, c'est point 1 de cette question-là. Mais peut-être que déjà là arrive quelque chose qui va reconcerner Mathilde, le personnage, à savoir cette quête-là. Pourquoi cette quête ? Question 2. Et puis encore d'autres choses, parce que le livre parle de la foi.
Oui.
Bon, il y a 3 questions qui viennent de ça, mais un, commençons par la musique.
Oui.
Ce rapport à la musique, et ce que dit le père, finalement. Voilà, le dessaisissement de la musique, la forme de liberté dans laquelle elle nous met, ce rapport-là au sensible, et donc au non-dogmatique, ça a aussi rapport avec ce qui touche en littérature et avec la façon dont Mathilde nous transmet des expériences dans ce livre.
Alors, la musique, c'est l'invisible aussi. C'est l'invisible, c'est le temps. C'est une manière unique de graver quelque chose du temps en soi. On a tous fait l'expérience, je crois, d'écouter une musique, une chanson ou un air en boucle pendant une période de notre vie donnée, et d'y retourner 10 ans après par la grâce de cette chanson qu'on réécoutait. Et ça reste quelque chose de prodigieux de pouvoir être plongé dans un temps qui n'est plus là par une musique qui a gravé le temps. La musique, c'est aussi les silences. C'est aussi le silence que la musique fait résonner. Et en ce qui concerne ce livre, d'abord en ce qui me concerne moi et puis après Mathilde, mais moi j'ai fait l'expérience de la pratique de la musique il y a 9 ans, à un âge où je n'avais vraiment, mais alors vraiment pas les mots pour être en adéquation avec ce que je ressentais de moi-même et du monde. J'ai choisi très précisément, j'ai fait la demande à mes parents, il n'y avait pas de musicien dans ma famille, j'ai fait la demande de jouer du violon un mois et demi après avoir vu la série Holocaust à la télé durant l'hiver 1979. Série qui m'a mise en contact pour la première fois avec une évocation de la Deuxième Guerre mondiale et de l'extermination des Juifs d'Europe. Et donc un des moments de fracture un moment de fracture très important dans ma vie d'enfant, avec d'autres fractures qui étaient là aussi. Et j'en ai la trace. D'ailleurs, j'ose dire que je suis touchée par moi-même, parce que c'est par la petite fille que j'ai été. Mais la première trace écrite personnelle que j'ai dans les carnets que j'ai écrits, c'est date du jour où on est allé louer un violon, et c'était le 9 mai 1979. Et donc c'est la première trace écrite personnelle que j'ai de moi. Auparavant, j'ai mes cahiers, mais je n'ai pas de journal intime, je n'en tenais pas encore. Et donc le premier moment de ma vie où j'ai eu besoin d'aller vers l'écriture pour inscrire quelque chose de moi-même, c'était ce 9 mai 1979. Et je dis, aujourd'hui, nous sommes allés chercher un violon avec mon professeur. On a pris un demi. Alors, on a pris un demi, c'était pas une bière, c'était vraiment un demi-violon, parce que j'étais petite. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à avoir une pratique. Il est convenu, quand on dit qu'on a fait du violon, de dire que les parents ont beaucoup souffert, et les voisins aussi. Mais j'ai commencé à avoir une pratique quotidienne et multi-quotidienne, puisque je jouais 3 fois par jour. Et il y a eu, dans ce moment, pour moi, où, à 9 ans, j'étais dans un grand désarroi par rapport à ce que le fait d'être juif, au danger contenu dans cette découverte-là, que le fait d'être juif avait pu condamner à mort, qui est une découverte à 9 ans dont on ne peut pas se remettre, le fait de pouvoir aller vers la musique et être dans une expression qui se passait de mots m'allait très bien. Et puis après, tu l'as dit, j'ai repris, j'ai joué quelques années et j'ai repris le violon après l'attentat de Nice en 2016. Et donc cette pratique que j'ai et qui est vraiment très approximative, très qui n'a aucun intérêt pour d'autres que moi, m'a tout de même accompagnée pendant l'écriture via le personnage de Mathilde, via Leonard Cohen, parce que Leonard Cohen, dans cette vidéo qu'on a évoquée, il exprime qu'il est en quête de justesse par rapport à ce qu'il ressent, par rapport au moment et par rapport à la capacité de chanter ou pas ce jour-là, ce soir-là. Et Mathilde, finalement, va prendre ce moment comme une injonction à être en quête elle-même de justesse. Et cette justesse-là qu'elle a envie d'avoir dans sa vie et qu'on pourrait décliner de différentes manières, c'est quoi une musique juste, on sait ce que c'est, mais une vie juste, c'est quoi? Une interprétation juste de la vie, c'est quoi? Et une interprétation dans tous les sens du terme. Et donc c'est cette question-là qu'il va, et plus que cette question, mais ce désir, cette quête, qui vont guider chacun de ses gestes et chacun de ses pas à partir du moment où elle entend la vidéo comme ça.
Chacun de ses gestes et chacun de ses pas. Et c'est vraiment... on est embarqué, en fait, dans le thème de... doit évoquer l'intime, mais surtout la perception. Parce qu'il y a un problème de perception technique. Ah oui. Suite au confinement, à un moment, elle perd le sens du toucher. Et c'est aussi cette quête-là qui va l'amener à se mettre en mouvement, très concrètement, sans savoir ce qu'elle va y chercher.
Oui. Alors, à la faveur du premier confinement, elle devient insomniaque, surtout. Et donc, à partir de là, son corps est vraiment au premier plan, en quelque sorte, de ce qu'elle traverse, parce que c'est à travers ses perceptions qu'elle modifie en quelque sorte son regard sur le monde. C'est-à-dire que on entre dans le livre par la mort de Leonard Cohen quelques années auparavant et l'élection de Donald Trump, et ensuite il y a un virage qui est pris avec le premier confinement, mais plus que le premier confinement, c'est le déconfinement qui perturbe Mathilde dans la manière qu'il a eu de précipiter de nouveau les êtres dans une agitation qui était celle de la vie, telle qu'on la vit, mais qui semble à Mathilde extrêmement incongrue après cette expérience inouïe de l'arrêt de toute activité humaine sur Terre en dehors de ce qu'on a qualifié d'essentiel, voire d'ultra-essentiel, c'est-à-dire d'aller faire cette course pour se nourrir, et de ces métiers qu'on a déclinés comme étant essentiels, avec sur le moment une sorte d'idéalisation de ces métiers-là. Donc ça passait par les soignants, évidemment, mais aussi par les éboueurs, les caissières et les caissiers. Mais avec, très vite, dès les premiers jours et premières semaines qui ont suivi le déconfinement, un oubli total de cette idéalisation. De toute façon, l'idéalisation, c'est toujours très dangereux, parce que je crois qu'on ne peut pas vivre dans un état permanent d'idéalisation et que très vite, ce qui reprend le dessus, c'est la complexité du monde, c'est la façon dont la société est organisée, tout simplement. Mathilde ne se remet pas de ça. Elle ne se remet pas non plus de voir ses élèves masqués. Et elle, en quelque sorte, a le sentiment que plus rien n'est envisageable, puisque les visages même ont disparu. Et donc, tout ce choc-là est un choc qui la percute au point qu'elle perd le toucher. Tous ses autres sens sont poussés au maximum et elle perd le toucher. Et cette déstabilisation-là des sens la maintient, je crois, pendant un certain temps, jusqu'à la guerre qui éclate en Ukraine en février 2022, donc pendant un an et demi, la maintient dans un état où elle est sur le qui-vive. Mais ce qui-vive-là, c'est un qui-vive qui ne concerne pas sa vie propre. Elle-même n'est pas en danger. La vie a pris, elle vit avec son mari, elle vit avec sa fille. Elle est prof, en apparence tout va bien. Mais la maintient dans ce qui-vive jusqu'au moment où la guerre en Ukraine éclate. Et là, alors que pendant le confinement, il lui semblait que l'histoire était devenue aphone et qu'il n'y avait plus... qu'il se passait quelque chose d'historique qui n'était pas dit, qui n'était pas exprimé et qui était encore moins analysé. La guerre en Ukraine, c'est plus l'histoire aphone, c'est l'histoire qui hurle, c'est l'histoire qui détruit sous nos yeux et qui devient insupportable pour elle. Et donc, à force d'encaisser ces chocs, hein, elle est une caisse de résonance, et elle est une caisse de résonance d'autant plus forte que, voilà, encore une fois, que l'ouïe est décuplée, la vue, et que sa peau, en quelque sorte, fait caisse. Je crois qu'elle n'en peut plus de résonner à ce point-là, et c'est à ce moment-là qu'elle décide de partir.
Caisse de résonance, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... quand on perd un sens, les sens sont amplifiés, a priori, enfin, c'est ce qui se dit.
Oui. Oui.
Là, en l'occurrence, elle arrive aussi, je le disais au début, en ignorante de ce pays, dans ce pays. Et ce pays est plein de discours. dès sa fondation, enfin, on a cité le testament, voilà, au commencement était le verbe. Et par ailleurs, les différentes minorités ou les différents représentants des différentes minorités qu'elle va croiser sont pleins de discours et de discours d'ordre très différents. Et le livre me semble aussi bâti là-dessus, c'est-à-dire que c'est un livre sur le discours, mais en méfiance du discours. Je prendrai un tout petit exemple, mais je pourrais en trouver d'autres. Hein. Mais celui qui me revient, c'est un moment dans l'avion, son mari lui dit bon départ, enfin.
Tu es bien arrivée.
Tu es bien arrivée. Elle dit mais non, okay. Je suis pas arrivée, je suis en train de partir. Et elle se dit qu'elle a un problème avec le langage, avec les mots, que les mots ne sont jamais exactement justes. On y revient. Et ça, c'est un exemple, mais du coup, ça la rend à la fois réceptive et méfiante. Et nous, on est dans cette position-là, je crois, en tant que lecteur, face aux nombreux discours différents au cours du livre. C'est une question, c'est d'abord une constatation, mais c'est une question. Est-ce que c'était une constante, quelque chose qui était là préalablement, ou c'est quelque chose qui est apparu peu à peu, que dans ce livre allait figurer, ponctuer, je pense, à ce colon qui l'agresse littéralement dans un trajet en voiture. Mais c'est pas le seul. Lui, c'est un discours caricaturalement violent, mais d'autres discours sont également dogmatiques à leur façon. Est-ce que ça faisait partie du plan, s'il y en avait un, ou est-ce que c'est venu en cours de route? Parce que c'est aussi paradoxalement ce qui renvoie au réel, et ce qui fait que ce livre, alors que c'était pas sa fonction, puis c'était pas son actualité, son agenda, parle d'Israël au moment où on reparle d'Israël, si j'ose dire, ce qui arrive régulièrement, mais d'une manière très tragique.
Oui. Alors là, je pourrais, prendre la question par différentes entrées, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Plusieurs.
Mais je dirais que, le plus simplement possible, que ce départ de Mathilde vers Israël n'était pas présent dans le mouvement premier du livre. Alors, je n'écris jamais je n'ai pas de plan lorsque j'écris, et j'ai besoin de cette... je n'ai pas de plan, mais j'ai une direction, heureusement. Mais cette direction-là, elle n'est pas tant... Elle n'est pas géographique. Elle n'est pas non plus. Il faudrait dire ce qu'elle est plutôt ce qu'elle n'est pas. Cette direction, elle a été guidée par une question que pose Mathilde à un moment donné, dans la première partie, et qui était posée dans Le faisceau des vivants. C'est la question comment vivre ? Il y a dans le texte, à différents endroits, des phrases comme ça qui sont en italique et centrées. Comme si c'était... D'ailleurs, personne ne m'a posé la question à ce jour. Pourquoi certaines phrases sont en italique et centrées? Donc je vais me la poser. Je m'attendais à ce que quelqu'un la pose. Mais depuis 2 mois, c'est pas venu. Donc je vais me la poser. Pourquoi certaines phrases sont centrées et en italique dans ce livre? Dont la phrase « Comment vivre ?» Et je dirais que elles sont venues dans le flux de l'écriture. Elles sont vraiment venues se poser comme ça, sans, sans que ce soit systématique et sans que ça obéisse à une règle qui serait celle, voilà, ça aurait pu être une phrase prononcée par un personnage qui revient ou je ne sais quoi ou une citation. Non, c'est pas du tout ça. Ces phrases, moi je les ai entendues puisque j'écris, quand j'écris une musique du texte, je les ai entendues chaque fois, toutes les phrases qui sont centrées en italique, comme comme des étapes, comme des pieux enfoncés pour marquer une étape. Et comme des phrases qui faisaient basculer Mathilde d'un état à un autre. Voilà, je le dis maintenant. Je le découvre moi-même peut-être en le disant de cette manière. Et donc, la phrase « Comment vivre ?», elle est centrée en italique. C'était elle, ma direction. C'était la question de Mathilde. Finalement, que ce soit le confinement, les confinements, la pandémie qui a été un bouleversement vraiment qu'on n'a toujours pas qualifié, je crois, et que ce soit la guerre en Ukraine qui nous a rappelé que du jour au lendemain, tout pouvait basculer pour des gens qui étaient engagés dans le mouvement de leur vie, dans un avenir qui était celui du lendemain, du mois prochain, d'un travail, d'un entretien d'embauche, d'un appartement à aménager, et qui basculait, ça m'a ramené, moi, avec mon personnage, vraiment à une question existentielle. Les questions que se pose Mathilde sont existentielles, elles ne sont pas identitaires, du tout. On parle beaucoup d'identité ces dernières années et on en parle beaucoup concernant Israël où elle va, mais pour elle, la question centrale, c'est vraiment la question existentielle. On est là, nos existences semblent nous appartenir et pourtant, elles peuvent être menacées et elles peuvent être modelées par quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Donc elle est face à ce mystère. Et donc, comment vivre était la question et la direction. Et lorsqu'elle va en Israël pour être présente sur les lieux de cette vidéo à Jérusalem, où Leonard Cohen a fait preuve de justesse et d'une certaine manière, voilà, elle veut trouver cet accord juste et qui résonne avec le texte du grand-père d'ailleurs. Elle va là-bas et là-bas, elle va se trouver effectivement face, elle va tendre l'oreille. Elle va tendre l'oreille et va se trouver face à des gens qui ne représentent pour moi personne d'autre qu'eux-mêmes. Je n'ai pas essayé d'en faire des porte-paroles, mais elle va se retrouver effectivement face à différentes personnes. Et surtout, et d'abord, je vais dire, elle prend une voiture et elle entame une sorte de ce qu'on appelle un road trip en anglais. Hein, je ne sais pas comment. C'est plus joli de dire road trip que d'un voyage, simplement. Mais elle entame ce road trip au volant de sa voiture et elle va rencontrer à chaque étape des gens avec qui elle va discuter. Et elle est française. Être étranger dans un pays, ça vous place toujours en situation d'être la personne à qui on a envie d'expliquer les choses. La personne à qui on a envie de dire, voilà, vous êtes étranger, enfin, tu es étrangère, le tutoiement, voilà, il n'y a pas de vouvoiement en hébreu, tu es étrangère, ben, je vais te dire un peu ce qui se passe ici, je vais t'expliquer les choses. Et donc, ce statut d'étrangère qu'elle recherche pour être dans un état d'innocence, elle va lui donner accès à ces personnes qui lui parlent, et elle, effectivement, elle tend l'oreille, et qui ont toutes un discours extrêmement affirmé sur la réalité dans laquelle ils sont plongés, et très différents les uns des autres.
Y compris Edna, je pense, qui parmi oui. un discours très intéressant, oui. Mais qui dit qu'elle se méfie des discours, mais elle le dit finalement aussi d'une manière assez péremptoire, enfin assez oui. autoritaire.
Oui. Ah oui, tous parlent de manière très affirmée, et en tenant des discours différents, mais avec des convictions très ancrées. Et en relisant le livre, donc moi, ces personnages-là, je les ai écrits en faisant le voyage avec elle. Et alors, je fais ce geste parce que je suis passée avec elle de Tel Aviv à Netanya, à Capharnaüm, sur le plateau du Golan, et en redescendant vers Jérusalem par la vallée du Jourdain. Et chaque fois, vraiment, quand elle s'arrêtait, je rencontrais avec elle quelqu'un. Il a été dit ici que je connais Israël bien mieux que Mathilde, pour avoir vécu 8 ans et pour y être retournée ces 30 dernières années. Au moins 80 fois. Pardon. ces personnages-là, je les ai croisés avec elle et je les entendais dans leur discours, je les entendais parler hébreu. Je les entendais, c'est plus compliqué que ça, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, mais j'entendais un rythme qui était vraiment leur manière de parler et qui était lié à l'hébreu. Et en relisant le livre, je me suis dit, mais ils ont tous des visions quand même très affirmées du monde, de la vie, de leur vie. Et j'ai réfléchi à ça, et j'ai réfléchi à tout ce que je pouvais entendre en Israël régulièrement. Et c'est vrai qu'en Israël, les gens tiennent des discours qui sont ancrés dans des certitudes très fortes, très, 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 très fortes. Et je pense que ça vient du fait que la réalité là-bas, puisqu'on parle du réel, est si instable et si déstabilisante, bien avant le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, c'est décuplé, que la seule manière de tenir et peut-être de ne pas devenir fou à force de douter, c'est de choisir une fois pour toutes son ancrage, sa position par rapport aux événements. Et donc pour poursuivre et répondre par rapport à la façon dont ce livre qui se passe en 2022 et dont l'écriture s'est achevée en 2023 au printemps, au début de l'été, il y a eu quelque chose à un moment donné dans l'écriture qui s'est produit et qui était une attention extrême à ce qu'elle pouvait découvrir là-bas du mouvement de l'histoire et qui a été un pressentiment qu'elle a que j'ai accompagné et qui était celui d'une catastrophe, mais je ne pouvais pas savoir laquelle.
Ce qu'il ne faut pas dire, parce que le livre a aussi une dramaturgie sur le mode de l'errance, oui. Et contrairement à ce que d'aucuns ont pu dire dans une émission qui m'a mise en colère comme d'autres, il se passe quelque chose, voilà, y compris dramaturgiquement, oui. Mais on ne va pas dire quoi. Mais je veux tirer ce fil-là parce que c'est intéressant et on va sans doute pouvoir parler aussi d'Appelfeld du coup. Tu l'as dit, l'hébreu. Il y a cette expression d'ailleurs littérale, c'est de l'hébreu, quand c'est quelque chose semble incompréhensible. Tu traduis l'hébreu, tu as décidé de traduire l'hébreu. Et déjà, ce premier mouvement-là fondateur est extrêmement intéressant en tant que même dans son élan contradictoire, c'est autant de désappartenance que d'appartenance. Mais il me semble que ça instaure un rapport au monde, potentiellement, qui est dans la droite ligne de ça, c'est-à-dire de cette attention au langage et de cette méfiance par rapport au discours. La position du traducteur, de la traductrice, et pas de n'importe quoi, en plus pas de n'importe quel hébreu, donc il y a Appelfeld le caché dans ma question, mais lui-même a un rapport particulier à cette langue-là. Donc là, parle-nous de ça, de l'hébreu. Là, il y a l'hébreu des gens, et tu disais toi-même c'est compliqué, parce que c'est une langue écrite, mais c'est aussi une langue parlée, mais c'est une langue écrite. Enfin bon, bref, c'est compliqué, oui. L'hébreu. Mais ton rapport à toi, à ça... qui est justement pas identitaire, mais très très important et relié à plein de choses.
Ah oui, l'hébreu est entré dans ma vie à différents moments. J'ai réalisé en répondant à une question de « Ah, c'est bien, ça porte bonheur de renverser de l'eau. » j'ai fait une découverte sur l'hébreu, sur mon rapport à l'hébreu, en répondant il y a quelques mois à une question de Marie Richeux pour une de ses émissions. Et tout à coup, je me suis souvenue que bon, moi, je suis née dans une famille juive pratiquante et j'étais dans une école maternelle orthodoxe et avant d'être virée de l'école à l'âge de 6 ans et j'en tire quand même pas une fierté mais un intérêt j'allais dire pour la façon dont une vie peut bifurquer à tout instant. J'ai été virée de l'école juive parce que j'écrivais penchée et que ma prof voulait que j'écrive droit et que le simple fait d'écrire penchée faisait qu'elle refusait de m'accepter en cours et je me dis que par cet acte un peu rebelle d'écrire penchée, j'ai sans le savoir certainement pris un virage dans ma vie qui a été déterminant puisque je suis allée à l'école publique suite à ça et que j'y ai fait des rencontres merveilleuses avec les enseignants et qui m'ont appris d'autres choses Mais le fait est que la première langue que j'ai apprise à déchiffrer, c'est l'hébreu et pas le français. Et donc, très tôt, parce que voilà, vers 4 ans, j'ai su déchiffrer l'hébreu, une langue que je ne comprenais pas. Et quand je me suis souvenue de ça, en répondant à la question, je me suis dit, mais c'est fou d'apprendre une langue d'apprendre à lire, à déchiffrer une langue qu'on ne parle pas et qu'on ne comprend pas. Après, quand j'ai appris à lire Martine va à l'école, je comprenais la phrase Martine va à l'école. Quand je lisais en hébreu, Elohim bara et hashamayim v'et haaretz, je comprenais Elohim parce que c'était Dieu et c'est tout. Et donc je me suis dit, mais c'est fou d'avoir été en position, enfant, d'être face à ça. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est présent dans qui vive, de déchiffrage de l'énigme, qui est vraiment inscrit en moi depuis très longtemps, à travers la lecture, à travers la langue, à travers mon rapport au monde, à l'art en général, et même à l'existence. Et Mathilde le dit, parfois, quand on lui a tendu sa fille pour la première fois, quand elle a donné naissance à sa fille, elle a regardé et elle a contemplé l'énigme qu'elle ne pourrait jamais déchiffrer. Qui peut déchiffrer l'expression d'un nourrisson? Personne ne sait ce que ça dit au fond. Et donc mon rapport à l'hébreu et peut-être même à la traduction a commencé là, à 3 ou 4 ans, lisant quelque chose que je ne comprenais pas. Ensuite, je suis allée vivre en Israël à l'âge de 13 ans avec mes parents, et là j'ai dû apprendre l'hébreu, je dis souvent au forceps. Donc là aussi, ça a à voir avec la naissance. C'est-à-dire que là, j'ai vécu à 13 ans un état d'innocence qui est celui vraiment des tout petits enfants, puisque j'étais plongée dans une langue que je ne comprenais pas du tout. Et je pourrais parler pendant des heures, et ça serait inépuisable, de ce que signifie être plongée à 14 ans dans une langue qu'on ne comprend pas. Au moment où on est dans le bouleversement de l'adolescence, la seule chose que je peux dire pour aller vite, c'est que j'ai une amnésie réelle de cette première année passée en Israël. J'avais quand même 13 ans et demi, donc en général on a des souvenirs de ces 13 ans et demi. Sur toute l'année qui a suivi notre arrivée, j'ai deux souvenirs, pas plus. J'ai deux souvenirs et j'ai, ça je l'ai déjà raconté, mais je pense que c'est important, et j'ai une dizaine de tentatives dans mon journal d'écrire ce qui s'est passé, et je commence en disant je vais essayer de raconter ce qui s'est passé depuis notre arrivée. Tant de choses se sont passées et je m'arrête là, mais 10 fois. Il y a juste la date et ça. Et l'hébreu cette plongée dans l'hébreu à 13 ans et demi m'a mise a renforcé mon rapport à la langue, au désir de dire, à l'incapacité de traduire et au désir de traduire quand même. Voilà. Tout cela, des années après, lorsque j'ai préparé l'agrégation d'hébreu, m'a amené au désir de traduire à Aaron Appelfeld, parce que s'il y a bien quelqu'un dans la littérature contemporaine en hébreu, mais pas seulement, qui a fait face à la question de l'impossibilité de dire, c'est Aaron Appelfeld. Impossibilité de dire par le fait qu'il avait vécu la plus grande des ruptures avec l'assassinat de sa mère par un nazi au début de la guerre et toute la guerre, mais à la tentative de dire dans une autre langue, puisque ce n'était pas sa langue natale, ce qui avait été détruit, ébranlé, et ce qui avait survécu dans tout ce qui avait été détruit.
Ça a un peu devancé ma question sur Appelfeld, mais oui, il y a ce rapport-là qui est très fort, et aussi ce rapport-là à l'énigme et à l'enfance, c'est-à-dire dans ce livre-là, dans Le faisceau des vivants, qui témoigne de ce qu'était pour toi Aaron Appelfeld, puisque vous êtes côtoyé pendant une bonne quinzaine d'années. Oui. Vous avez une relation forte. Il est question de ça, tu reviens sans cesse sur cette énigme de sa propre enfance dont tu viens de parler, je ne vais pas la réitérer, mais effectivement il y a ce premier rapport-là fort avec Appelfeld, et puis moi, en lisant Qui vive, je me revenais sans cesse dans Le faisceau des vivants, c'est-à-dire que j'y suis revenu, parce qu'il me semble qu'il y a comme Alors, c'est pas du tout le même livre, puisque là, c'est un récit à la première personne, mais il y a des rapports très forts. En termes du voyage aussi et de la façon dont se fait le voyage, hein, parce que le récit c'est la mort d'Appelfeld, tu en es bouleversé, tu es dans cet état de sidération que tu essaies de traverser, et du coup tu reparles de lui, et il y a une vidéo où tu parles aussi de son rapport aux autres. Et là, moi, je repense à la présence de Cohen dans Qui vive, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quand même un rapport, une sorte de guide non péremptoire, absolument non péremptoire. Il y a une fonction un peu commune au fil du livre, dans ce qu'on traverse. Et puis, il y a le voyage qui est entrepris. Tu vas sur la trace des origines d'Appelfeld, mais tu y vas d'une manière, enfin, en tout cas telle que tu le racontes, de pensée sauvage quasiment, c'est-à-dire que tu te laisses errer dans la ville aussi. Oui. Et il y a des phrases qui le disent précisément, topographie avec les pieds, voilà. Oui. Et à cet endroit-là, ton expérience de la ville d'origine d'Appelfeld me semble très reliée à l'expérience que tu fais vivre à Mathilde de sa traversée d'Israël.
Alors c'est vrai que je n'y ai pas pensé en écrivant Qui vive, mais quelqu'un m'a fait la remarque aussi, et je suis heureuse de cette résonance, parce que oui, il y a certainement quelque chose d'un mouvement, alors qu'en apparence, les deux livres, effectivement, l'un est un récit, l'autre est un roman, mais il y a ce mouvement de la mort, de la sidération, de la mort de quelqu'un, d'une figure tutélaire, ou en tout cas, tu disais comment, j'ai bien aimé la définition.
À chaque fois, c'est un maître non péremptoire.
Un maître non péremptoire, j'aime beaucoup ça. Leonard Cohen était le chanteur préféré d'Aaron Appelfeld, par ailleurs. Et évidemment que chez Aaron Appelfeld, comme chez Leonard Cohen, on trouve une confrontation avec des questions existentielles, avec des questions métaphysiques, avec une sorte de lutte permanente qui est celle dans la Bible du combat de Jacob avec l'ange. Le combat de Jacob avec l'ange dans la Bible, c'est un des passages les plus énigmatiques, vraiment. Tous les exégèses, on ne comprend pas très bien en fait ce qui se passe dans ce combat et avec ce rêve de l'échelle qui monte et qui descend. Et donc ce combat-là qui est forcément que Leonard Cohen dit d'une phrase dans un documentaire que je cite ici et qui était peut-être une sorte de mantra aussi, qui était celui d'Aaron Appelfeld et que je fais mien, que je partage avec vous, c'est en quelque sorte l'enjeu, c'est d'être en état de grâce malgré l'état du monde. Et c'est ça, la littérature d'Aaron Appelfeld, c'est ça, c'est trouver la grâce, l'humanité, dans un monde qui a détruit l'humanité. Oui, il y a dans ces deux voies qui sont en apparence très différentes, quelque chose de commun. Et peut-être que j'ai eu envie ou besoin, et j'en suis heureuse si c'est le cas, si ça a donné lieu à ça, peut-être qu'il y a un diptyque entre Dans le faisceau des vivants et Qui vive, et de passer par certaines questions, mais d'une manière très différente, avec un autre personnage, puisque Mathilde est un personnage. Ce que je sais, c'est que en partant en Ukraine, un mois et demi après la mort d'Aaron Appelfeld, en 2018, pour aller, puisque la ville dans laquelle il est né a été d'abord une ville qui était intégrée à l'Empire austro-hongrois, qui s'appelait Tchernovitz. Ensuite, lorsqu'il est né, c'était la Roumanie, Tchernahouti, en 1932. Et aujourd'hui, c'est Tchernivtsi, en Ukraine. Et en partant en Ukraine en 2018, un mois et demi après sa mort, en fait, j'y suis allée parce que j'avais commencé à écrire le livre qui n'était pas forcément un livre au départ, qui était un texte nécessaire, où je faisais résonner sa voix et où j'étais dans un état où il y avait cette caisse de résonance de la voix d'Aaron Appelfeld en moi, de la voix qui continuait à résonner après sa mort, tout comme les événements résonnent chez Mathilde. Et puis à un moment donné, elle a cessé de résonner. Et là, j'ai eu le sentiment que la seule chose que je pouvais faire, c'était partir là où il était né pour son anniversaire, pour le jour de son anniversaire, que c'était l'endroit le plus juste pour moi d'être dans ce lieu à la date de son anniversaire. Et il y avait donc une quête aussi pour moi d'adéquation entre l'espace et le temps. Et je n'ai jamais ressenti d'adéquation aussi forte entre l'espace et le temps qu'à Tchernivtsi, le 16 février 2018, quand je suis arrivée là-bas, et je me suis dit, voilà, je suis là où il est né, parce qu'Aaron Appelfeld commençait toutes ses rencontres en disant, je suis née à Tchernovitz en 1932. Et il pointait quelque chose. Et simplement éprouver le verbe être à cet endroit-là a été une des expériences les plus fortes de toute ma vie. Et il y en a eu quand même quelques-unes. Et en fait, si je vais plus loin, les expériences les plus fortes que j'ai pu vivre ont toujours été liées à un lieu précis, à un moment précis. Et donc Mathilde, qui n'est pas liée du tout à Israël de la même manière, fait une expérience du lieu. Et puis il ne faut pas oublier qu'elle est professeure d'histoire géo. Et donc elle retrouve en quelque sorte le sens de l'histoire en arpentant la géographie de ce pays. Et voilà, ce sont des expériences qui sont, en tout cas, qui ont été très fortes pour moi dans l'écriture et assez inépuisables, puisque finalement, oui, dans qui vivent un mouvement qui rappelle dans le faisceau des vivants.
Ben oui, déjà en l'entendant, vivant et vive, enfin.
Oui, j'ai même hésité à donner à ce titre, à ce livre.
Des évidences, des fois, sautent aux yeux après coup.
Oui, mais... oui. Ça veut dire que la vie est quand même peut-être une interrogation.
J'ai encore plein d'autres questions, d'autant que quand le lien se fait avec de l'un à l'autre, c'est un peu sans cesse. Mais. Vous en avez peut-être d'autres et de toute autre nature, ou tout, bah forcément, ce n'est pas obligé de prendre forme de question. Vous pouvez avoir lu et avoir été touché par le livre de Valérie, celui-là ou d'autres d'ailleurs. Est-ce que, comme vous êtes dans le noir, hein, je ne peux pas
si
discerner
vous levez la main,
l'empêchement,
vous
la timidité.
Et si être plongé dans le noir empêche les questions, on peut continuer de dialoguer pour vous et avec vous.
Oui, c'est toujours intimidant d'avoir l'air de forcer comme ça. Et donc, je vais commencer par une phrase que je cherchais tout à l'heure sur le rapport entre les deux. Quand tu es à Tchernovitz, donc en tant que narratrice d'un autre livre, tu dis quelque chose qui pourrait être le plan de Mathilde. Marcher sans suivre de plan. Sans savoir où je vais, ne pas chercher et peut-être trouver, tiré d'incise, quoi ? Point d'interrogation. Et il me semble que si, voilà, cette phrase, justement parce qu'elle n'affirme pas, mais qu'elle s'ouvre par une question, elle me semble faire exactement lien sur les modalités de quête, qui sont les tiennes, là, de mémoire, qui sont des quêtes de mémoire, mais qui ne sont pas mettre une stèle non plus. Ton expérience de Tchernovitz est très, voilà... comme ça, dispersé, si j'ose dire. Je parlais de pensée sauvage tout à l'heure. Et sa traversée d'Israël est comme on l'a dit, mais très libre et caisse de résonance. Et quand à propos de la choc, d'ailleurs, elle dit juste... elle remet Leonard Cohen dans le Walkman, quoi.
Alors, si on vient dans le faisceau des vivants et on arrive à Tchernivtsi, et au titre de ce festival... Ce qui était extraordinaire pour moi, si on parle de l'effraction du réel dans la fiction, c'est que pour moi, les Carpates, Tchernovitz, Tchernivtsi, que ce soit en tant que ville, en tant que paysage naturel et en tant que visage, ce sont des lieux et des visages qui sont entrés en moi par la littérature d'Aaron Appelfeld et par la traduction. Au moment où je suis allée là-bas, je crois que j'avais traduit 11 livres d'Aaron Appelfeld. Et tous sont baignés de la lumière des Carpates, de cette ville et de ces visages de paysannes ruthènes, ukrainiennes. Et quand je suis allée là-bas, il y avait tout à coup pour une incarnation de tout ce que j'avais traduit, qui était si forte que effectivement je n'avais absolument pas envie de sortir Google Maps pour savoir où aller. Et j'ai eu ce sentiment extraordinaire de pénétrer pour la première fois, de poser mes pieds pour la première fois dans un lieu qui m'était connu intérieurement par la fiction et par les romans que j'avais pu traduire. Et là, ça a été une expérience très très forte qui s'est poursuivie par une expérience des sens incroyable lorsque le soir du 16 février, je suis allée dans un restaurant et j'ai mangé un plat qu'on retrouve dans les livres d'Aaron Appelfeld et dont il parlait avec beaucoup de tendresse, qu'on peut appeler le banouche ou le mamaliga, ça dépend des écoles, et qui est une sorte de polenta. Et c'était la première fois de ma vie que je mangeais ça. Et je pense que un jour j'ai trouvé l'image et je dis, mais c'est comme si un traducteur étranger de Proust n'avait jamais goûté de madeleine trempée dans du thé, mais avait tout de même traduit le passage. Et puis tout à coup, venait en France et goûtait et trempait une madeleine dans du thé et la mangeait. J'ai eu ce sentiment de découvrir un goût déjà traduit. Et là, c'était une effraction du réel par les sens. Et cette expérience-là du banouche a été aussi importante que tout le reste. Aussi importante que la visite du cimetière juif, aussi importante que l'université que j'ai vue tout à coup apparaître, aussi importante que la cathédrale, que la neige, il faisait très très froid. Et c'était la neige qui tombe au début d'Histoire d'une vie. Et donc, ce sentiment d'être réellement présente dans un lieu qui existait pour moi par la littérature m'a fait vivre cette importance d'arpenter le monde, en fait, si possible. Enfin, pas le monde, c'est vaste et je pourrais jamais arpenter le monde. Mais en tout cas, d'arpenter quelques lieux et à un moment donné, de ne pas chercher à savoir, mais à voir. Et c'est ce que fait Mathilde ensuite en Israël. C'est-à-dire, voilà, ne plus savoir. Moi, je ne savais plus rien en étant à Tchernovitz. Et je ne cherchais pas à savoir. Encore une fois, je n'ai pas fait du tourisme, je n'ai pas pris de planche. Mais être là-bas, encore une fois, voir, sentir. Ce sont des expériences qui sont très fortes. À un moment donné, pour revenir à Mathilde, au début du livre, quand elle observe les gens, quand elle est sur ce qui vivent et qu'elle regarde, elle se dit, mais comment font les gens pour vivre ? Elle compte le nombre de gens qu'elle voit marchant dans la rue, les yeux rivés sur le téléphone portable, en disant, voilà, et ils marchaient avec confiance, faisant confiance aux autres pour les contourner et ne pour pas se heurter à eux. Et elle les observe. Et il y a très souvent cette idée de l'écran dans le livre. Des nouvelles qui arrivent sur l'écran, du téléphone, de cette vidéo qu'elle voit. Et à un moment donné, l'écran disparaît et c'est uniquement ce qu'elle voit, ce qu'elle sent et tout ce paysage qui s'ouvre en elle et qui n'est pas forcément une réponse aux questions existentielles. Mais une petite réponse à la question comment vivre, voilà, en reliant des...
J'ai encore une question qui me vient, mais si jamais la timidité s'est abolie, je ne veux pas vous couper la parole. Parce que ça...
Après, on pourra discuter...
Oui, il y a la dédicace, de toute façon, pour parler directement à Valérie. J'en ai donc une toute dernière, parce que ça me revient à quelque chose que j'allais oublier et qui nous ramène au thème de façon très littérale a priori, mais tu y reviens là. Il y a une déhiérarchisation présente chez Appelfeld aussi, ou une requalification de l'importance et de ce qu'est le réel. Et ça, dans la pratique du monde de Mathilde au début, y compris dans quand démarre la crise, qu'elle est encore à Paris, il y a un moment où elle écoute des gens dans un bar et qui font des jeux à gratter, et il y a une histoire de bélier, des choses comme ça. Elle dit quelque chose comme « c'est tellement beau une phrase nouvelle, c'est tellement rare
oui. ».
Et elle pourrait rester comme ça, en finalement reporter de l'infime.
Oui.
Et c'est, voilà, quand je parle de déhiérarchisation, c'est requalification des importances, de ce que serait le réel. Il est tout aussi bien, et ça c'est quelque chose dit Appelfeld, c'est-à-dire que c'est tout aussi important la manière dont on va s'adresser à toute personne que ce soit,
oui.
À des plus petites choses qui se passent, que les fameux grands événements qui nous arrivent d'autant plus assénés comme dans le flux des informations.
Oui, ce que disait Aaron Appelfeld, c'est que tout artiste doit créer en étant relié à l'enfant en lui. Et c'était vraiment quelque chose qu'il a beaucoup creusé dans sa vie et formulé plus d'une fois. Et qu'il s'agisse. Évidemment, l'enfance, dans sa bouche n'était pas du côté de l'infantile, mais du regard de l'enfant qui n'est pas encore saturé par ce qu'il sait du monde. Et tout à l'heure, quand j'ai dit, voilà, à Tchernovitz, j'ai compris, je voulais pas savoir, je voulais voir. Mais c'est très, très, très difficile de voir en oubliant ce qu'on sait. Et donc, il y a une phrase aussi qui a disparu dans ce livre. Voilà, un jour, je publierai le making of, le contre-livre. Mais c'est bien de couper. C'est très important, de couper, je pense. Et puis, ça permet aussi de partager des choses. Voilà, à un moment donné, Mathilde disait dans une version, dans l'avant-dernière version, j'ai tant aimé désapprendre. Et donc voilà, ce regard, mais évidemment qui n'est pas celui réellement de l'enfant, puisque Mathilde est adulte, je suis adulte, j'ai les mots pour dire ce que ne pouvait pas dire la petite fille de 9 ans à Nice quand elle jouait du violon. Enfin, j'ai les mots, non. Il faut vraiment que je reprenne cette phrase. J'essaie de trouver les mots et j'ai l'impression de les trouver rarement. Voilà. Il y a des moments de grâce où je les trouve et donc j'écris. Mais d'essayer d'avoir ce regard-là et de regarder vraiment et d'entendre vraiment. Et Mathilde, quand elle entend cette phrase dans un tabac bar à qui on tend un jeu à gratter, on lui dit, elle veut, je sais plus, est-ce qu'elle veut comme
gratter un bélier?
Alors non, elle veut pas gratter de bélier, elle voulait un lion, et on lui dit non, elle veut pas gratter de lion, oui c'est ça, elle veut pas gratter de bélier, bref, elle veut pas gratter c'est bizarre parce que tout à coup j'ai un trou dessus, mais ça serait bien de retrouver je tombe pile sur la phrase, c'est incroyable. Voilà, je vous la lis, ça sera mieux parce que c'est pas bien de bafouiller en fin de rencontre quand même. Et donc un jour j'ai épié un couple derrière lequel je faisais la queue au tabac. Ils hésitaient devant des tickets de thème astral à gratter. La femme demanda, comment ça marche? Quand est-ce qu'on sait qu'on a gagné? C'est immédiat, il faut gratter là et là, répondit le jeune buraliste. Donnez-moi un lion alors, je veux gratter un lion. J'en ai plus, j'ai un bélier si vous voulez. D'accord, on prend le bélier, dit l'homme, aussitôt interrompu par sa femme. Ah non, j'ai pas envie de gratter un bélier moi, donnez-moi un scorpion. Et elle tendit une pièce de 2 euros au garçon en répétant « J'ai pas envie de gratter un bélier, moi. »
Merci. On pourrait continuer longtemps, ça fait une très jolie fin. J'avais envie de te demander de finir par une lecture et puis que vous puissiez rencontrer, déjà respecter notre horaire, et que vous puissiez rencontrer Valérie autour d'une dédicace. Merci beaucoup.
Merci Lénaël, merci à vous.
J'espère qu'on a ouvert quelques portes. Ce livre en ouvre encore beaucoup. Et bien évidemment, il est à relier à minima avec celui-là, et je ne vais pas refaire l'article, mais il y en a quelques autres par ailleurs. Merci Valérie.
Merci à vous tous. Merci.